Le collège de Blainville est périurbain. Il compte un peu moins de 400 élèves. Et l'internat est une spécificité de cet établissement où il y a 35 places mixtes. Les résultats au diplôme national du brevet, qui sont utilisés pour classer les collèges, sont similaires à ceux de l'académie. La mise en place de ces actions est partie de constats. C'est d'abord des repérages de conflits et d'incivilités dans les couloirs, la cour, les salles de classe, mais aussi des propos et des attitudes sexistes, des faits de violence, de harcèlement, par le biais ou non des réseaux sociaux et des téléphones portables. Et également un manque d'ambition scolaire et professionnelle, en particulier chez les filles. Avec quelques collègues, nous avons senti la nécessité d'offrir aux jeunes des possibilités de débat et d'expression en vue de déconstruire les stéréotypes de genre. Il existe plusieurs définitions du genre. Il y a d'ailleurs des spécialistes dans la salle. Pour ma recherche, qui est liée à un contexte scolaire, j'ai retenu deux points importants. Le fait que le genre est une construction sociale. Il se distingue du sexe qui est lié aux organes génitaux. Le genre se réfère ainsi à la masculinité ou à la virilité et à la féminité, qui sont des notions fluctuantes et subjectives liées aux normes et valeurs d'une société donnée à une époque donnée. Le genre désigne les différences entre les hommes et les femmes liées au contexte social et culturel. Il sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Finalement, c'est le refus du naturalisme et l'introduction de l'idée de construction sociale. L'égalité étant le deuxième principe de l'école républicaine française, après la liberté, le deuxième point que j'ai retenu est que les relations entre les genres ne sont pas égales. Dans de nombreuses sociétés, le genre masculin et les attributs qui sont attachés est valorisé par rapport au genre féminin. Le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir. En ce qui concerne les stéréotypes de genre, ce sont des caractéristiques arbitraires, fondées sur des idées préconçues, que l'on attribue à un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Ces stéréotypes ont un impact sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société. Ils servent de prétexte à les cantonner à certains rôles sexuels. Exemple de stéréotypes de genre, les filles qui portent des jupes courtes sont des filles faciles, les garçons ont plus de besoins sexuels que les filles. Pour mieux comprendre la mise en place des actions en faveur de l'égalité filles-garçons, je vous propose d'évoquer brièvement avec vous l'historique du collège. Le départ se situe en 2002, avec l'option DP3, qui est une option facultative, découverte professionnelle 3 heures, où les élèves sont invités à réfléchir sur leur choix d'orientation. Les textes stipulent qu'un questionnement des stéréotypes sociaux et sexués qui enferment garçons et filles dans des choix prédéterminés doivent être discutés. Nina Charlier, enseignante en EPS, mais aussi responsable syndicale à la commission femmes au SNEP FSU, a animé cette option DP3. Elle partage avec d'autres collègues engagés un rôle de défenseuse des dominés pour parler au lieu d'être parlé, pardon, pour citer Bourdieu. Cette préoccupation a été véhiculée et transmise vers les élèves de la DP3, mais aussi vers les personnes ressources du projet en construction. Cette enseignante, en lien avec les militants et les militantes du syndicat, a défini plusieurs leviers pour agir, comme le fonctionnement de la prise de parole égalitaire entre les sexes, la féminisation des textes et enfin le contrôle du langage en situation pédagogique. Cet engagement syndical autour de la question de l'égalité filles-garçons a été primordial pour mettre en place les actions au collège de Blainville-sur-Orne. Nina a d'ailleurs présenté un mémoire en 2005 intitulé « Des filles et des garçons ensemble en EPS, vision différenciée, mixité inachevée ». C'est aussi la pratique habituelle des animations en co-intervention dans le cadre d'un programme d'éducation à la sexualité mis en place depuis 2007 au collège, de la 6e à la 3e, qui a été un élément facilitant pour envisager les modalités des actions. Enfin, la volonté accrue de faire avancer les choses avec un postulat de départ reposant sur la nécessité d'une éducation entre les sexes, la présence d'une équipe solidaire et soudée, ainsi que l'adhésion et l'investissement par la suite des collègues femmes et hommes qui ont permis de mettre en route le projet et de le pérenniser. Ainsi, à travers ce projet et ses activités, l'équipe impliquée cherche à faire prendre conscience aux élèves que la société véhicule des stéréotypes de genre auxquels ils sont soumis. Cette éducation auprès des élèves semblait indispensable pour que progressivement les stéréotypes de genre s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent. C'est donc avec les constats repérés et dans ce contexte précis qu'un projet a été mis en place, intitulé « Parcours citoyen, bien vivre ensemble », qui se décline actuellement sur les 4 niveaux du collège. L'école est en effet le lieu du vivre ensemble des jeunes, des adultes, des parents et des enseignants. Aussi, il existe toute une série de communautés de vivre ensemble emboîtées dans le vivre ensemble de l'école, elles-mêmes emboîtées dans celui de la société. On comprend dès lors que l'école devienne facilement, presque inévitablement, le lieu de toutes les confiances et de toutes les défiances, celui des espérances et celui des crispations ou des ressentiments. Le projet du collège de Blainville vise à impulser un vivre ensemble structurant, créatif et harmonieux en développant la coopération, la confiance et l'estime de soi, l'intelligence collective, la créativité, la connaissance de l'autre, l'acceptation des différences. C'est finalement tenter de créer un lieu au climat apaisé, favorisant le bien-être et l'épanouissement de tous et toutes, et surtout avoir envie d'y venir. Il y a ainsi une progression verticale, puisque c'est en 6e, bien vivre avec soi et avec l'autre, en 5e, bien vivre avec l'autre sexe, en 4e, bien vivre là et avec la différence, et en 3e, bien vivre son parcours professionnel ou oser se donner le choix. Des discussions informelles autour d'un café entre deux portes ont permis de constituer une équipe. En effet, les échanges entre nous pouvaient prendre des formes diverses, des discussions de couloir, des discussions en face à face, à bâton rompu, des échanges de messages électroniques. Ces échanges informels ont sans doute participé au fonctionnement d'un collectif de travail, compris dans le sens de relations de coopération, de formes de coordination permettant d'accomplir l'activité. Ces échanges pouvaient porter sur le travail lui-même, mais aussi et certainement de façon essentielle sur d'autres sujets participant à la consolidation du collectif, comme par exemple rire ensemble au travail. Dans notre cas, le collectif de travail s'est construit sans contrainte extérieure, sans injonction institutionnelle, mais avec le respect des règles de la profession et de comportement. Ce qui a pu assurer la formation et le maintien de notre collectif depuis 2012 est l'engagement, la mobilisation, la collaboration, la solidarité, d'authentiques liens de confiance réciproque et la loyauté entre nous. En 6e, c'est donc, comme j'ai expliqué, bien vivre avec soi, donc en utilisant les compétences psychosociales. L'OMS donne cette définition: les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Il existe une multitude de compétences psychosociales, mais l'OMS en définit 10 principalement, comme par exemple savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, ou bien se connaître soi-même, éprouver de l'empathie pour les autres, savoir gérer le stress, savoir gérer ses émotions. L'objectif des compétences psychosociales est donc de renforcer les ressources individuelles pour faire face aux situations problèmes qui ne peuvent manquer de survenir avec des formes inattendues. Ces compétences psychosociales sont donc tout particulièrement intéressantes pour une problématique transversale comme le genre. Les compétences développées dans un domaine étant transférables dans d'autres. Par exemple, prendre une décision trouve des applications aussi bien dans le choix d'orientation que dans l'acceptation ou le refus d'une relation affective ou sexuelle. Quelle que soit la compétence considérée, leur développement nécessitera de passer par une réflexion sur les rôles sociaux de sexe. Filles et garçons ne sont pas socialisés à gérer leur stress et leurs émotions tout à fait de la même façon. En effet, la même conduite, pleurer ou couper la parole par exemple, n'a pas la même signification sociale selon que c'est une fille ou un garçon qui la manifeste. Ainsi, les compétences psychosociales contribuent à l'égalité entre filles et garçons parce qu'elles travaillent explicitement la prise de conscience des déterminants des décisions et des comportements et donc la possibilité de les mettre à distance lorsqu'ils risquent, dans certaines situations, de limiter le champ de la pensée et de l'action. Pour notre projet, l'accent est mis sur la construction de l'esprit critique, de l'identité, le renforcement de l'estime de soi, en particulier chez les jeunes filles. Ici, je vous présente des productions élèves. Cette séance s'intitule « Je suis », qui a pour objectif de réfléchir sur ce qui constitue son identité, de prendre conscience des différentes facettes de l'identité. Vous pouvez lire ici, par exemple, sur ce côté de l'écran, où il y a des références sociales, par exemple, « Je suis une fille », « Je suis un sixième », mais également des références personnelles, « Je suis accro aux écrans ». Il y a donc différentes manières de se voir et de se présenter. On remarque des ressemblances et des différences entre les uns et les autres, chacun étant unique, mais appartenant aussi à des groupes divers. Une autre activité que je présente ici, intitulée « L'île déserte », où en fait 5 à 6 groupes d'élèves doivent se mettre d'accord pour emporter 5 choses essentielles pour aller sur une île déserte parmi une liste. Elle permet d'identifier les différents modes de prise de décision dans un groupe lors d'une situation problème, de repérer leurs avantages et leurs inconvénients, et ainsi de mieux connaître son attitude dans un groupe. Cet atelier permet aux élèves d'exprimer leurs ressentis, agréables ou désagréables. On peut retrouver la frustration, la déception, le découragement, le sentiment de mise à l'écart, le renoncement ou bien la fierté, une réussite individuelle ou collective, voire même le plaisir. Pour aider les enfants à repérer ce qui a été privilégié, est-ce la concertation, la reconnaissance de chacun, ou bien l'efficacité et la réussite au détriment des autres qui a été utilisée ? Je vous présente maintenant ce qui se passe en cinquième, où là c'est bien vivre avec l'autre sexe, avec la thématique de l'égalité filles-garçons. Ces 8 ateliers qui sont proposés aux élèves sur 2 journées, comme par exemple l'atelier ours que je vais expliquer, une exposition, l'éducation à la sexualité, mais aussi de l'art plastique, de la danse, des films et certaines années aussi une conférence. Les 2 films qui sont proposés sont Billy Elliot et Joue-la comme Beckham. Ils sont donc placés en ouverture et en amorce des 2 journées. Ces 2 films ouvrent une réflexion autour des choix et de représentations liées aux pratiques sportives suivant les sexes. L'atelier ours permet de réfléchir sur les stéréotypes liés au genre. C'est révéler comment nos choix, nos pratiques, nos goûts peuvent être influencés directement par les stéréotypes et les préjugés. Le support utilisé est une image d'un ours asexué assis dans un fauteuil près de la cheminée. On demande aux élèves si, d'après eux, le dessin représente un ou une ours, ou encore l'un ou l'autre. La position avachie de l'ours assis au coin du feu entraîne souvent une assignation vers le sexe masculin. C'est un papa car il est fatigué après sa journée de travail, disent les élèves. Ensuite, les animateurs posent cette question. Que faudrait-il ajouter pour que l'ours soit une maman ? Les élèves viennent au tableau dessiné sur l'image projetée. Que peut-on voir ? Un soutien à gorge, des bijoux, le collier, le bracelet, les boucles d'oreilles, le petit neuneu dans les cheveux, donc les cheveux longs, et puis le mascara, et les talons aiguilles. Les talons.
Et dans la main
un magazine. Femme actuelle. Ici, sur cette autre production élève, nous retrouvons les cheveux longs, le mascara, le soutien à gorge. Ce n'est pas un livre, c'est plutôt une revue. Et ici, vous avez les enfants et le balai avec le seau. Donc, on retrouve les attributs féminins. Quand on leur demande « Est-ce que ta maman est comme ça ?» Ah ben non. Même question pour le papa. Que faudrait-il ajouter pour que l'ours soit un papa ? Que retrouve-t-on ? Nous retrouvons ici sur cette production élève un tatouage, mais pas n'importe lequel. La bière d'œuf bue par Homer Simpson. L'homme qui est mal rasé avec la cigarette, une casquette plutôt de sport. Ici, le petit cadre avec l'image de la voiture, un film d'action, des chaussettes sales. Et ici, le caleçon sale. Et la télécommande, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est d'évoquer les stéréotypes de genre. Ensuite est engagé un travail sur l'environnement éducatif avec la littérature jeunesse et visuelle, les publicités et les catalogues de jouets. Une exposition intitulée « Lutte des femmes, progrès pour tous » est proposée aux élèves pour retracer, à l'aide d'un quiz, l'histoire de la condition féminine à travers des siècles. L'éducation sexualité est incluse dans les deux journées à l'aide d'un jeu de cartes sur lesquelles sont inscrites des représentations. Cette technique d'animation a pour finalité principale de favoriser l'expression du groupe et le partage d'opinions. C'est par exemple, on entend souvent dire « les garçons, ça ne pleure pas, qu'en penses-tu ?» ou bien « homosexualité masculine, homosexualité féminine, quelle place dans la société ?» Le groupe doit se mettre d'accord pour proposer son avis sur chaque affirmation proposée. Les autres groupes réagissent ensuite et un débat s'engage. L'animateur ou l'animatrice doit veiller, bien sûr, à accorder à chacun un temps de parole équivalent pour éviter que les éventuels désaccords d'opinion ne génèrent des conflits. Lors de l'atelier art plastique, un détournement d'une publicité de petits appareils électroménagers des années 50 a été proposé. Enfin, l'exposition que j'ai présentée succinctement tout à l'heure est remobilisée lors d'un atelier danse. Chaque scène représente un acquis et chaque groupe illustre par la danse un de ses acquis. C'est par exemple le port du pantalon, le droit de vote, la mixité à l'école par exemple. Si l'enseignement de la danse, dont celui de la gymnastique rythmique, est dans les programmes du collège, il est très faible en réalité puisqu'il représente 1 à 2% des enseignements sportifs et artistiques à l'école. Le plus souvent, il est pris en charge par les enseignants eux. Une recherche de Karine Guérandel en 2013 montre que les dispositions incorporées socialement sont en conflit avec les normes scolaires de la mixité et de l'égalité. On demande en effet aux garçons d'être dominants, ils doivent s'afficher comme virils, donc hétérosexuels. C'est le gage du maintien de leur réputation pour ne pas être exclus de leur groupe de pairs. Quant aux filles, il leur faut également garder leur réputation, ce qui signifie qu'elles doivent éviter les rapprochements avec l'autre sexe. Pour Karine Guérandel, les conséquences en activité danse sont manifestes. Les élèves s'évertuent à se maintenir à distance de l'autre sexe. Les élèves adoptent des techniques corporelles conformes à ces normes de sexe. Pour les filles, c'est la grâce, la beauté, le refus d'écarter les jambes. Pour les garçons, la force et les performances acrobatiques, le refus des postures ambiguës, le refus d'être de dos ou de toucher un autre garçon. Et les sous-groupes ne correspondant pas aux normes de sexe se retrouvent particulièrement en difficulté. Ainsi, une réflexion concernant les modes d'entrée des élèves s'est engagée au sein de l'équipe EPS du collège, constituée par 2 hommes et 2 femmes. Ils ou elles ont recherché une entrée fréquentable et ont pris en compte la dimension sexuée de la danse. Nous avons été fiers de constater que tous les élèves avaient participé. Nous avons choisi de travailler avec nos élèves de 4e sur les relations entre adolescents et adolescentes en incluant une réflexion sur le harcèlement, les discriminations et plus généralement les différences. L'équipe pédagogique a été particulièrement impliquée pour cette journée puisque tous les collégiens, pendant une heure, ont bénéficié d'un temps fort autour de la question du harcèlement. Différents supports en fonction des choix des enseignants et des enseignantes ont été utilisés en guise d'amorce à la discussion. C'est par exemple une vidéo, une chanson, un texte. Seuls les élèves de 4e bénéficient d'une journée entière consacrée à la thématique des différences, avec des intervenants extérieurs, des associations comme la Ligue des droits de l'homme, SOS Hémophobie ou la Maison des diversités, également la gendarmerie de secteur qui est la gendarmerie de Ouistreham, qui vient pour montrer son rôle de prévention. Et puis également un professionnel qui vient parler du cyberharcèlement. Et l'équipe pédagogique a créé en quelque sorte un atelier qui s'appelle « Des mots et des mots » sur les insultes. Voici quelques exemples de vidéos utilisées. Certaines choisies par les élèves, comme par exemple la chanson « La petite Émilie » de Kinvé, ou bien par l'équipe pédagogique ici pour mettre à distance le harcèlement en proposant une vidéo sur une journée au travail, et ici celle du ministère. En 3e, pendant une journée, un travail sur l'orientation est engagé, cette classe étant un palier d'orientation. Nous sollicitons les COP, les conseillers d'orientation psychologues, pour cette action. L'objectif est de partir de constats, les chiffres sexués de l'orientation en Basse-Normandie et de tenter d'expliquer les différences entre les sexes et de faire un lien avec le monde du travail. C'est finalement réfléchir sur les paradoxes. Ensuite, des étudiants et des étudiantes et des professionnels exerçant dans des métiers atypiques de genre viennent à la rencontre des collégiens et des collégiennes. L'objectif est que nos élèves s'autorisent à effectuer de vrais choix d'orientation en fonction de leurs compétences et de leurs goûts, et non pas en dehors de leur sexe. Je vous présente ici un extrait du livret qu'ont les élèves. Enfin, nous invitons chaque année une vingtaine de professionnels qui exercent dans des métiers atypiques de genre. Ce qui apparaît en bleu, en fait, ce sont ceux qui sont réellement venus. Bien sûr, on donne plus de noms de métiers que réellement. Et les élèves doivent deviner, donc à la manière d'un speed dating, quel métier exerce le professionnel en posant des questions. Et les professionnels répondent que par oui ou par non. Donc il y a un travail aussi d'engager sur les représentations. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de la carrossière, ici, qui est d'ailleurs une ancienne élève du collège de Blainville. Alors je ne sais pas trop quelle est la représentation d'une carrossière. En tout cas, cette jeune fille est épaisse comme ça, une vraie pépette, très maquillée. Et donc les élèves sont toujours surpris d'apprendre qu'elle est carrossière. Donc c'est réfléchir un petit peu sur ces représentations. Très souvent, une conférence est engagée le soir avec des conseillers d'orientation psychologues et ou des chercheurs qui sont dont une présente dans la salle. Les actions s'inscrivent toujours dans un cadre, que ce soit la convention interministérielle, le socle commun des connaissances et des compétences. Elles sont en lien avec le contrat d'objectifs et le projet d'établissement. Elles sont toutes inscrites au CESC, le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté. Les textes de 2015 du nouveau socle commun de connaissances et de compétences et de culture reprennent cette idée d'amélioration de la vie commune, ainsi que les programmes d'enseignement de l'école maternelle, puisqu'elle doit construire les conditions de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, les programmes d'enseignement de l'école, ainsi que les programmes d'enseignement moral et civique. Je vous ai présenté le projet succinctement. Je vous propose maintenant de vous exposer ma recherche. Après chaque action, un bilan est produit par les intervenants et les intervenantes et une évaluation sexuée à chaud est effectuée auprès de nos élèves. Les retours sont très positifs. Ainsi, depuis 2012, les actions ont été déployées et reconduites. Je me suis interrogée sur l'impact de ces actions sur l'orientation des élèves. Les élèves de Blainville-sur-Orne qui ont participé au projet font-ils des choix différents d'orientation que ceux de l'académie ? Je me suis tournée vers la conseillère d'orientation psychologue du collège pour obtenir les chiffres. Après analyse, je me suis rendu compte que les choix d'orientation de nos élèves étaient les mêmes que ceux de l'académie. J'ai donc changé mon projet de recherche en me tournant cette fois vers les enseignants et les enseignantes qui avaient participé à une action au moins, l'égalité nécessitant qu'elle soit reprise par les enseignants. J'ai donc choisi dans mon corpus quatre professeurs principaux, principales de troisième, qui avaient assisté à une demi-journée d'une action, soit deux hommes et deux femmes. Parmi les quatre enseignants et enseignantes et collègues directs, j'ai des relations amicales avec l'un d'entre eux. Je lui ai demandé en premier, sans doute parce que je sentais que les choses seraient simples. Je l'ai sollicité autour d'un café pris à l'extérieur du collège. Cette personne savait déjà que j'avais repris des études. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir aux mots à utiliser pour effectuer ma demande d'entretien. Sa réponse positive a été énoncée simplement. Pour les deux autres collègues avec qui j'ai des relations cordiales, je les ai contactés pendant un déjeuner au self du collège. Ils sont tous les deux amis et j'ai profité de leur présence pour leur exprimer le souhait de m'entretenir avec eux. Je suis restée assez floue sur le contenu de ma recherche, non pas par ruse ou par esprit de calcul, mais je ne voulais pas qu'ils préparent d'éventuelles réponses. J'ai délibérément utilisé le mot « entretien » plutôt que « enquête » pour me démarquer des éventuelles assimilations ou des confusions faites avec le travail policier ou de surveillance. L'avantage majeur pour moi a été la confiance accordée spontanément par ces trois collègues, sans doute parce qu'ils me connaissaient en tant qu'enseignante et en tant qu'individu. En ce qui concerne la quatrième personne à contacter, la dernière chronologiquement, c'est celle qui me semblait difficile d'accès. Nous avons eu des dissensions toutes les deux sur le plan professionnel. Depuis, nos échanges étaient limités. C'est finalement dans la salle des personnels, en préparant le café, que je me suis lancée. J'ai évoqué le contexte, ma reprise d'études, ma requête, l'entretien. Contre toute attente, sa réponse a été très enthousiaste. Elle a même souhaité m'inviter chez elle pour l'entretien. Peut-être que cette personne s'est sentie touchée par l'intérêt que je lui portais. j'ai décidé d'utiliser une méthode qualitative, l'entretien, et plus précisément l'entretien semi-directif, parce que je souhaitais laisser une plus grande souplesse dans les options de réponse. L'entretien semi-directif fonctionne comme un réel échange entre le chercheur et la personne interrogée. L'entretien fait finalement produire un discours. Grâce à la lecture d'ouvrages, j'ai établi au préalable un guide d'entretien pour le conduire et pour articuler les items qui donnent un plan, un cheminement. La première partie de mon guide d'entretien permet d'introduire, en suscitant le souvenir, le thème général de ma recherche, à savoir l'impact des actions menées en faveur de l'égalité filles-garçons au collège. Dans un second temps, j'ai cherché à savoir si ces actions avaient fait évoluer les pratiques professionnelles des enseignants, ainsi que l'ambiance du collège. Enfin, j'ai élaboré ma dernière partie du guide d'entretien avec pour objectif d'aborder la vie personnelle des interviewés en lien avec l'égalité filles-garçons et leurs perspectives de formation sur ce sujet. Ainsi, ma trame a été volontairement construite de façon à partir de la sphère professionnelle pour aller vers la sphère privée, afin de ne pas trop être intrusive, ne pas trop brusquer les enseignants. J'ai également élaboré des hypothèses de travail. Il me semblait que le fait de participer à ces actions permettrait une prise de conscience de l'importance de l'égalité filles-garçons dans la pratique professionnelle de ces enseignants, qu'ils, elles, seraient plus à même de repérer des indices pour mettre en œuvre un savoir-faire, que le climat scolaire serait amélioré et que ces enseignants et enseignantes souhaiteraient s'engager dans ces actions et souhaiteraient se former sur la question. Pendant les entretiens, mon travail a été d'orienter, grâce à des relances, de façon implicite les personnes interrogées vers les thèmes abordés, en prêtant attention à ne pas les influencer dans leurs réponses. Le piège étant de rester assez neutre et en retrait, alors que l'on attend des réponses à nos hypothèses construites en amont. Il s'agit de ne pas influencer l'interviewé pour qu'il, elle, fournisse les réponses que nous pourrions attendre afin de confirmer nos hypothèses de départ. Je n'ai pas souhaité m'enfermer dans un travail fastidieux de retranscription de tous les entretiens. Vouloir tout retranscrire est sans doute rassurant, mais le risque est peut-être de laisser de côté sa problématique. J'ai retranscrit un entretien en totalité, le premier chronologiquement, et j'ai retranscrit 3 entretiens d'une façon particulière, fragmentée. En effet, en écoutant les enregistrements, j'ai choisi des extraits plus ou moins longs que j'ai jugés dignes d'intérêt. Il s'agit de propos imagés, parlants, d'exemples intéressants, de réactions vives, d'anecdotes, d'histoires de vie, proches de ma problématique. La retranscription est ainsi un premier moyen d'analyse et même d'auto-analyse. Analyse puisqu'en écoutant l'enregistrement de manière attentive et en le retranscrivant le plus fidèlement possible, on s'imprègne du discours. Ensuite, auto-analyse puisque cela m'a permis de repérer ma façon de conduire un entretien et donc de déceler mes erreurs. Après les retranscriptions, j'ai construit un tableau pour chaque thème. Donc je vous montre un exemple. Ici, le thème de la pratique professionnelle. J'ai construit, du coup, 5 tableaux, puisque j'avais 5 thèmes. Je vous présente ici ma façon de faire. J'ai utilisé des couleurs, le jaune ici, pour mettre en avant un avis. Par exemple, ici, je ne sais pas trop si j'ai puni plus de garçons ou des filles. Je n'y prête pas attention. En vert, c'était pour repérer les contradictions. Je pense que c'est plus les garçons, mais ce n'est pas une histoire de sexe. Et en rose, les représentations. C'est plus souvent les garçons, peut-être, qui font moins leur boulot. J'ai l'impression que les filles s'arrangent entre elles. Le but de ces tableaux est d'avoir une première vision d'ensemble des résultats de ma recherche avant de les analyser et de les confronter à la littérature scientifique qui traite de ce sujet. C'est une analyse longitudinale, entretien par entretien. Ensuite, dans un deuxième temps, l'analyse des entretiens est horizontale puisqu'elle relève les différentes formes sous lesquelles apparaît le même thème d'un individu à l'autre. Puis j'ai procédé à une analyse croisée liée au sexe pour déceler d'éventuels écarts entre les hommes et les femmes. Les résultats montrent des représentations tenaces. Une des représentations fortes est l'adhésion des personnels à une idéologie de la neutralité, pour citer Marie Durubella. Nicole Mosconi évoque la représentation de l'élève par les enseignants et les enseignantes comme asexuée, pour justifier un traitement juste et égal pour tous. Une telle conception contribue à ne pas pouvoir aborder l'égalité entre les sexes comme une question de genre, soit une question qui est liée aux rapports sociaux entre les sexes. La lutte pour l'égalité des sexes peut donc leur paraître contradictoire avec les idéaux d'égalité qu'ils, elles, poursuivent. Ainsi, en mathématiques, matière connotée comme masculine, François déclare « J'attends qu'il lève la main ». Les études montrent qu'il y a moins d'interactions avec les filles, moins d'encouragement à trouver la bonne réponse, moins de remarques d'ordre cognitif en direction des filles. D'ailleurs, les filles n'essaient pas de répondre à une question qu'il ne leur est pas spécifiquement posée. De plus, les analyses concluent qu'en moyenne, les enseignants consacrent 44% de leur temps aux filles et 56% aux garçons. En ce qui concerne les punitions, ce sont les garçons qui sont plus punis, avec des explications. Les garçons sont plus dissipés. Les garçons, peut-être, qui font moins leur boulot. Ces déclarations reprennent les travaux de Sylvie Héral, qui a montré que 75 à 85% des élèves ayant reçu des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires sont des garçons. Pour les garçons, la sanction est un véritable rite de passage qui permet, à l'heure de la construction de l'identité sexuée, d'affirmer avec force sa virilité. Faire le pit devant les filles, afficher les stéréotypes de la masculinité, montrer que l'on ose défier l'autorité, est valorisante et recherchée, parce que, au-delà de la punition, l'enjeu réel est la consolidation d'une identité masculine toujours faillible. L'appareil punitif scolaire fonctionne pour Sylvie Héral comme une fabrique des garçons, reproduisant, sans le savoir, les stéréotypes de la domination masculine. Aux hommes, la force, la provocation, l'indiscipline. Aux filles, la discrétion, la sagesse, la docilité. Ces représentations et la mixité, finalement, sont utilisées d'ailleurs comme instruments de gestion de classe. C'est très caricatural, mais pour éviter les bavardages, je mets très souvent un garçon à côté d'une fille, déclare François. La mixité semble servir ici d'instrument de gestion de l'espace social qu'est la classe, en mobilisant ce qui est supposé typique des uns et des autres, et rappelant aux élèves combien ils sont avant tout des garçons ou des filles. Le silence et l'immobilité sont les termes qui caractérisent la représentation qu'ont les enseignants des filles, selon Nicole Mosconi. On dit les filles moins bruyantes, moins remuantes, plus discrètes que les garçons. Elles sont aussi plus attentives, plus réceptives. Les filles gênent moins, se font moins remarquer, d'après Nicole Mosconi. Néanmoins, j'ai pu mettre en avant des changements en ce qui concerne les supports. Alain, professeur de français, déclare « Je n'y pensais pas trop, mais après je me suis rendu compte que c'était un univers extrêmement masculin, le monde de la chevalerie. » Depuis, Alain intègre dans ses séquences les contes des mille et une nuits où l'héroïne est une femme. La question des modèles féminins est soulevée ici. En ce qui concerne la constitution des groupes, il y a plus d'attention une vigilance supplémentaire, notamment pour la coopération garçon-fille. C'est particulièrement au niveau du climat scolaire que les enseignants et les enseignantes déclarent déceler des changements depuis la mise en place des actions au collège. Ils évoquent une évolution positive, un impact, la présence de nouvelles lois, d'une grille de référence pour les élèves. Eux-mêmes se disent plus vigilants, plus aptes à repérer et à communiquer. Néanmoins, le projet a mis en avant des tensions au niveau de l'équipe. Un projet qui n'est pas apprécié de tout le monde. Ça a créé des difficultés parce que, comme le collectif des collègues qui s'occupent de ce projet-là est essentiellement ou exclusivement féminin, la peur du féminisme. On peut soulever ici le problème de la méconnaissance des instructions officielles de l'éducation nationale sur le sujet par les personnels, qui conduit à considérer que l'égalité filles-garçons ne relève pas de la mission de la communauté éducative, mais d'une forme de militantisme associée à du féminisme. Ce sont les femmes qui se déclarent volontaires pour participer et être actrices lors des journées organisées dans l'établissement. C'est un sujet qui semble prioritaire pour elles, même si l'obstacle évoqué par elles est le manque de temps. Néanmoins, pour les hommes interviewés, l'égalité entre les sexes ne semble pas constituer un problème éducatif prioritaire, du fait des défis multiples auxquels l'enseignant doit faire face actuellement, la prise en compte des élèves en difficulté, en situation de handicap. Ces hommes ont peut-être une conception positiviste de l'histoire des femmes et des rapports sociaux de sexe en lien avec le progrès social en général. Ces résultats révèlent combien il est difficile de considérer la question du genre et des stéréotypes comme un problème professionnel. Sans doute une menace est-elle ressentie, une menace de perte de liberté pédagogique et de liberté de jugement, voire même de perte identitaire. Admettre les inégalités filles-garçons dans l'éducation entraîne des questionnements multiples. La sphère de l'intime est interrogée. C'est construire sa propre identité sexuée pour induire un regard genré sur son identité professionnelle. Cette construction nécessite un accompagnement. Aussi, la combinaison d'apports théoriques et d'outillages concrets contribue à l'accompagnement de nouvelles pratiques. Enseigner avec le prisme du genre est une réelle compétence professionnelle qui se construit tout au long du processus de formation, tant au niveau initial qu'en cours de carrière. Il s'agit de partager l'étude des conditions et des modalités par lesquelles les injonctions politiques peuvent prendre forme dans la définition curriculaire à toutes les étages de la transposition didactique. Le personnel de l'éducation nationale ne peut pas se désengager sous prétexte qu'il n'est pas la cause première. C'est même la mission de l'École française de la République, la mission des lieux d'éducation de service public. Muriel Salles, chercheuse à Lyon, déclare « Œuvrer pour l'égalité entre les sexes dans sa classe, ce n'est pas se montrer partisan ou partisane, mais bien agir en fonctionnaire, de manière éthique et responsable, en conformité avec la loi. » Néanmoins, depuis 2013, les enseignants et les enseignantes qui apprennent le métier dans les ESPE bénéficient d'une formation de 3 heures pour l'académie à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations. Même si l'engagement ministériel pour l'égalité des sexes à l'école n'est pas une nouveauté, la présence identifiée de cette problématique en formation initiale est un réel progrès. Avec l'équipe du collège impliquée dans le projet, nous avons décidé de mettre en lumière nos actions auprès de l'institution, lors de stages via le rectorat, lors de formations à l'ESPE, mais aussi auprès de partenaires, comme par exemple la MGEN, aussi lors de stages syndicaux. Nous avons aussi interpellé des personnes qui sont chargées d'une mission sur la question de l'égalité homme-femme, comme par exemple Nicole Ameline, qui est ancienne présidente du CIDO à l'ONU. Le CIDO, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous invitons systématiquement les personnels des établissements du département à venir voir nos actions, ainsi que les personnes susceptibles d'être intéressées, comme les ateliers du genre. Notre projet a été repéré et valorisé par le CARDI, présent dans la salle, que je remercie, qui est le Centre académique de recherche et de développement en innovation et expérimentation. Il figure en particulier dans la Bibliothèque nationale Experitech, qui recense plus de 5000 projets innovants et expérimentaux en France. Aujourd'hui, c'est dans un autre cadre, celui de la recherche, que je présente le projet. Les recherches participent à quelque chose qui est en mouvement, des choses qui font système. Une charte a été récemment votée par l'Université de Normandie, grâce à l'implication formidable de Clotilde Marchand, présente dans la salle. Par cette charte, l'université s'engage sur le principe suivant, faire de l'égalité entre femmes et hommes une volonté permanente de l'université de Caen. Je suis sollicitée moi-même par l'institution pour mettre en lumière ma recherche. Il me semble évident que la recherche a une utilité sociale. Et c'est à vous, chercheuses et chercheurs présents dans la salle, de poursuivre les travaux engagés, voire même de poursuivre mon travail auprès des élèves, par exemple, du personnel de direction, et ainsi participer à cette dynamique. Parmi les nombreux ouvrages que j'ai lus, j'ai choisi quelques-uns dont j'ai évoqué dans ma présentation. Le travail de Sylvie Héral pour les punitions, les ouvrages de Beau, Blanchet, ici, de Kaufmann, m'ont beaucoup aidé pour préparer les entretiens et construire le guide d'entretien. J'ai utilisé l'ouvrage de Bérénie pour définir le genre, les travaux de Marie Durubella, de Nicole Mosconi et de Françoise Vouillot m'ont aidé à travailler sur les représentations des enseignants, et sur l'orientation. Et enfin, les travaux de Petrovic et de Salles m'ont aidé à travailler sur les résistances des enseignants par rapport à la question du genre. Merci à tous. Je remercie chaleureusement l'équipe des ateliers du genre qui m'ont invitée, Anne-Laure Le Guern qui a encadré mon travail, et puis les filles, on s'appelle les filles, Nina Charlier, Sylvie Debled, Stéphanie Isabelle, Patricia Lassus, qui sont pilotes et porteuses du projet, et toute l'équipe du collège de Blainville-sur-Orne. Merci à vous.